RFI 4h30 à Paris, 6h30 en Tananarive.
Nemo en piste.
Les mots cinglants des églises malgaches envers les autorités de la grande île à la une de ce journal. À l'occasion de leur message de fin d'année, elles s'en prennent directement aux mauvaises pratiques au sein du pouvoir, des positions très commentées sur place et assimilées à des attaques déguisées par la présidence. Et bientôt, 3 mois de violence post-électorale au Mozambique. 3 mois au cours desquels des milliers d'habitants se posent la question suivante, fuir ou rester ? Alors que près de 300 morts ont été enregistrés. Les Comoriens, eux, voteront le 12 janvier prochain pour les législatives. S'ils sont nombreux à attendre, entre autres, de meilleures conditions de vie, les espoirs d'un renouveau restent minces, vous l'entendrez. Et puis c'est l'une des conséquences de la montée en intensité des combats ces dernières semaines. Dans l'est de la République démocratique du Congo, les rebelles du M23 ont une nouvelle fois gagné du terrain hier avec la prise de Katale, considérée comme le dernier verrou avant la ville de Massissi-Centre. Nous sommes à Goma dans ce journal. Le pouvoir malgache bousculé par l'église sur la grande île et comme chaque année en période de fête, leurs chefs se sont adressés à leurs fidèles, des discours qui bien souvent dépassent le cadre religieux pour évoquer des affaires nationales. Et cette année, les messages ont été particulièrement virulents envers les autorités. La première église du pays dénonce l'hypocrisie de la classe dirigeante, quand la seconde, sans la citer nommément, l'accuse de s'accrocher au pouvoir. Et des discours qui ont eu le don d'irriter la présidence dans un climat post-électoral tendu, puisque l'opposition et la société civile mettent en cause la sincérité du scrutin municipal du 11 décembre dernier. À Antananarive, Pauline Letroquier.
Le message publié le 24 décembre a suffi à bousculer la trêve habituelle des fêtes. Que Noël ne soit pas comme celui d'Hérode, celui d'une personne aveuglée, un fou au pouvoir, lance le président de l'église protestante. En s'appuyant sur la figure du roi de Judée, il demande aux dirigeants de ne pas tomber dans les pratiques tyranniques bien connues de ce souverain. Des mots assimilés à des attaques déguisées par la présidence de la République. Sollicité par RFI, Louvrano Roumar, sa porte-parole, estime que l'église doit rassembler et non alimenter la haine. Quelques jours plus tard, l'église catholique, choyée par le président Dzhadzouel, a elle aussi délivré un message alarmiste. Crier « Alléluia » et « Amen » à l'église ne vaut rien si nous continuons à faire le mal, assure le cardinal Désiré de Sarrazane, une référence à la persistance de mauvaises pratiques au sein de l'administration. Ces messages ne cessent d'être relayés et commentés. Avec une opposition affaiblie et un parti présidentiel hégémonique, l'influence de l'église est considérée comme l'un des derniers remparts de la population malagasse qui continue de subir la hausse du coût de la vie ainsi que les coupures d'eau et d'électricité. Pauline Troquier, Antananarive. RFI.
Et j'ajoute que l'un de nos invités ce matin sur RFI est le père Pedro, fondateur de l'œuvre humanitaire à Kamassoa, Madagascar. Entretien à retrouver avec Arnaud Pontus aux alentours de 6h20, temps universel. Au Mozambique, c'est un dilemme auquel sont confrontés des milliers de personnes. Fuir ou rester, alors que la violence fait rage depuis les élections du 9 octobre dernier. Selon un dernier bilan, près de 300 personnes ont été tuées dans des manifestations, alors que le candidat perdant, Venancio Mondlane, appelle régulièrement à la mobilisation. Lui qui a lui-même fui le pays pour raison de sécurité, dit-il. Certains habitants font de même, en partance vers le Malawi ou les Swatini. D'autres restent pris au piège dans un climat de terreur. Christina Okello.
Parmi les personnes en fuite figurent des réfugiés et des demandeurs d'asile vivant au Mozambique, comme Alexander Daichaisaba. Âgé de 23 ans, ce jeune Tanzanien s'était installé à Maputo dans l'espoir d'un avenir meilleur. Mais face à la montée des violences, il a dû fermer son commerce.
L'endroit n'était plus sûr. Des inconnus venaient et demandaient « Vous êtes derrière qui ?» Si vous répondiez que vous souteniez Daniel Chapo, il répliquait « Ils vont vous brûler, ils détestent ceux qui le soutiennent. » Et effectivement, une fois entre leurs mains, ils vous brûlaient ou ils détruisaient vos affaires. Nous avons tous dû abandonner nos biens.
Alexander a depuis quitté la capitale mozambicaine et se dirige vers la frontière avec le Malawi, où de centaines de personnes ont déjà trouvé refuge. Pendant ce temps, certains choisissent de rester, comme cet habitant mozambicain qui appelle les dirigeants à surmonter les différends politiques.
J'espère que le gouvernement et les partis pourront engager un dialogue et résoudre les problèmes du pays.
Daniel Chapo, déclaré vainqueur de l'élection présidentielle par le Conseil constitutionnel, doit être investi le 15 janvier prochain, une échéance qui pourrait aggraver les tensions. Dans un communiqué publié au jour de l'an, la communauté de développement de l'Afrique australe a appelé toutes les parties à faire preuve de retenue et engager un dialogue constructif pour éviter une nouvelle escalade de violence.
Christina Okello, de nouvelles secousses sismiques en Éthiopie ces dernières heures, la dernière en date ce samedi, rapportée par le Centre de recherche allemand pour les géosciences qui fait état d'un séisme de magnitude de 5,8, quand hier le Centre sismologique euro-méditerranéen annonçait un séisme de magnitude 5,5 ayant provoqué l'entrée en éruption d'un volcan dans le nord du pays. Aucun blessé n'a pour l'heure été signalé. Dans un peu moins de 10 jours, aux Comores, les électeurs seront appelés aux urnes pour les législatives. Pour l'instant, c'est l'heure de la campagne. Et les citoyens espèrent que cette nouvelle législature pourra répondre à leurs principales attentes, meilleure gouvernance, lutte contre la corruption ou encore amélioration des conditions de vie. Des attentes nombreuses donc, mais aussi et surtout une forme de pessimisme. Abdallah Zembaba a tendu son micro à des électeurs à Moroni.
S'il y a une constance dans les attentes des Comoriens, c'est le changement dans la manière de gouverner et de légiférer. Pour Tamim Ibrahim, entrepreneur, le rôle du député doit avant tout être pleinement assumé.
Qu'il travaille sur des lois qui vont dans le sens de l'amélioration de la qualité de vie du Comorien, qu'il fasse un vrai contrôle de l'action du gouvernement, ce qu'on a très rarement vu. Après, je me permets d'être un peu pessimiste quand on entend les discours des uns et des autres, parce qu'on a l'impression que c'est des personnes qui s'attendent à un mandat exécutif. Ils sont en train de promettre monts et merveilles à la population.
Pour Nassur Ali Hamadi, militant de la société civile, les priorités des députés doivent inclure des actions concrètes pour des secteurs clés.
J'ai vu que l'éducation représente 3% des dépenses de l'État. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire sur l'éducation. Nous attendons plus de nos élus de mettre en place les mécanismes nécessaires pour contrôler l'utilisation des biens de l'État pour lutter contre la corruption, parce que c'est une réalité.
À 6 jours de la fin de la campagne du premier tour du 12 janvier, la campagne reste timide. Les attentes, souvent non tenues, semblent être un frein pour une population largement désintéressée. Abdallah Zembaba Moroni, RFI.
RFI, 5h37 à Goma. Une nouvelle avancée pour les rebelles du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Ils ont désormais pris le contrôle de la localité de Katale, en territoire de Masisi, après de violents combats hier contre l'armée congolaise et ses alliés Wazalendo. Située à environ 70 km au sud de la capitale provinciale du Nord Kivu, Katale est considérée comme le dernier verrou avant la ville de Masisi centre, chef-lieu du territoire. Détail avec notre correspondant à Goma, Héritier Baraka.
Selon la société civile et des témoignages recueillis sur place, la prise de cette localité stratégique est intervenue après 2 jours de violents combats entre l'armée alliée au Wazalendo et les rebelles du M23. La localité de Katale, située sur la route principale Masisi-Goma, était une position stratégique des FARDC et la zone était considérée comme symbole de résistance car la plupart des rébellions qu'a connues la région n'avaient jamais réussi à prendre cette agglomération. Cette localité est aussi importante car elle est le dernier verrou protégé à la ville de Masisi-Centre, symbole administratif dans la région. Télésphore Mitondeke, rapporté de la société civile territoire de Masisi, affirme que cette avancée des rebelles a causé un déplacement massif de la population. Le colonel Séraphine Sabimana, porte-parole de Wazalendo dans la région, assure que tout est mis en œuvre pour lancer une riposte. Pour l'instant, l'armée n'a pas encore réagi à cette offensive du M23. Jeudi dernier, les combattants du M23 avaient réussi à prendre l'agglomération de Kaniro et d'autres villages dans les mêmes territoires du Masisi. Héritier Baraka, Goma, RFI.
Direction le Cap, en Afrique du Sud, dans ce journal où l'heure est au dernier préparatif pour le carnaval du début d'année. Le Tweede Nieuwjaar, entendez le second nouvel an, d'ordinaire célébré le 2 janvier, date héritée du temps de l'esclavage, puisqu'il s'agissait à l'époque du seul jour de repos pour les esclaves, déplacé cette année au 4 janvier aujourd'hui, donc pour permettre aux nombreuses communautés musulmanes de se concentrer sur la prière du vendredi. Sujet signé Claire Bargelès depuis Johannesburg.
Une vague de couleurs, de chants et d'extravagance s'apprête à déferler sur le Cap pour cette nouvelle édition du carnaval. Cela fait des mois que les Klops, les troupes de ménestrels, répètent et organisent leur spectacle. À 53 ans, Mohamed Nournel représente les West London All-Stars.
Tout est créé par nos communautés locales qui passent tant d'heures et de jours à se rassembler pour créer ce défilé. Moi aussi, j'y serai, habillé de mon costume de satin pour apporter une super ambiance toute la journée.
La fête, au son des trompettes et les tambours traditionnels Gouma continuent de commémorer un pan de l'histoire sud-africaine pré-apartheid, comme s'en satisfait Irshan Higgins, fondateur d'un musée consacré au passé esclavagiste du pays.
C'est un événement important pour notre histoire et nos traditions. Je pense que nous devons rendre hommage à nos ancêtres esclaves dont nous descendons. Donc avec ces célébrations aujourd'hui, il s'agit pour la classe ouvrière du Cap de garder en vie la mémoire de ses ancêtres.
Ces dernières années, le parrainage de l'événement par une société de Paris en ligne fait débat. Plus de 80 000 spectateurs sont toutefois attendus pour ce grand carnaval. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
On termine ce journal là où on l'a débuté, à Madagascar. L'île est réputée pour sa biodiversité unique au monde, richesse aujourd'hui menacée par l'agriculture. Les professionnels du secteur sont donc incités à adopter des pratiques agricoles plus durables qui pourraient d'abord améliorer leur qualité de vie, mais aussi préserver cette biodiversité. Et parmi les solutions qui leur sont proposées, l'approche climato-intelligente, une méthode adaptée au contexte local selon Sarah Obidir à Cotonarivo, socio-économiste de l'environnement à l'université d'Antananarivo.
En Madagascar, des milliers d'hectares de forêt partent en flammes chaque année. Ceci principalement à cause de l'agriculture surbrûlée ou l'agriculture itinérante. Et cette pratique, ça détruit la biodiversité unique et endémique à Madagascar qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et en même temps, une personne sur quatre souffre d'insécurité alimentaire, qui signifie qu'à peu près 7 millions de personnes n'arrivent pas à répondre à leurs besoins alimentaires quotidiens. L'agriculture climato-intelligente, c'est une façon de pratiquer l'agriculture qui aide à produire plus de nourriture tout en s'adaptant au changement climatique et en réduisant les impacts négatifs sur l'environnement. C'est une solution qui a fait ses preuves. Par exemple, en utilisant des semences améliorées, ça rend l'agriculture beaucoup plus productive, ça augmente la production et aussi le revenu des agriculteurs. Et quand le revenu des agriculteurs augmente, ils deviennent beaucoup plus résilients aux impacts négatifs du changement climatique.
Sarah Obidir à Cotonarivo, invité tout à l'heure de Kpenaï Traoré à partir de 13h10, temps universel dans votre émission. Un jour au village. Et puis suite de la quatrième journée de Ligue des Champions ce samedi, le TP Mazembe en déplacement sur la pelouse des Tanzaniens des Young Africans. Coup d'envoi à 13h temps universel. Un peu plus tard, à 16h, TU, les Sud-Africains d'Orlando reçoivent les Ivoiriens du stade d'Abidjan. Et ce soir, deux matchs au Maroc, les Phares de Rabat face aux Congolais de Maniema. Le Raja Casablanca face au Mamelodi Sundowns sud-africain. Plus de détails dans une heure dans le Journal des Sports avec Christophe Diremzian.
Afrique Matin sur RFI. Nemo en piste.
4h42 à Paris, à suivre, entretien avec Angèle Kaba qui nous plonge dans l'univers du hip-hop et des danses afro-urbaines. Elle présente son spectacle Off-Broadway. Elle est d'ailleurs la première femme à en diriger un. Angèle Kaba, notre invitée ce matin. La une de Jeune Afrique, comme tous les samedis, est la guerre d'influence à laquelle se livrent le Maroc et l'Algérie au Sahel. Puis le reportage culture à la découverte de ce surprenant spectacle sans un mot, mais avec des cris d'animaux. Mais tout de suite, le reportage Afrique. En Tunisie, à la rencontre des collecteurs de plastique sur place, on les surnomme les Berbéchas et ils seraient près de 8000 dans le pays. Parmi eux, de nombreuses femmes très exposées au risque de ce métier qui fait partie de l'économie informelle. La Tunisie ne dispose pas d'un système de tri sélectif et ces métiers restent donc précaires. Récemment, une étude de l'association Union Nationale de la Femme Tunisienne a mis en lumière les conditions de travail de ces femmes berbéchas et leur vulnérabilité. Reportage à Tunis de Lilia Blaise.
Chaque jour, Basma Lamliki, 53 ans, sort avec une poussette rafistolée pour faire sa tournée. Entre les poubelles et les particuliers, elle collecte les bouteilles de plastique et du pain rassis. Elle vend les bouteilles à un dépôt de plastique et le pain aux agriculteurs pour leur bétail.
Alors là, vous voyez, je vais passer voir une dame que je connais depuis longtemps. Elle me prépare les bouteilles vides en général, chaque vendredi.
Donc ça vous évite de chercher dans les poubelles ?
Non, je passe toujours faire les poubelles aussi au cas où, car ça complète ce que l'on me donne directement, et aussi si quelqu'un est absent et que je n'ai pas eu assez de bouteilles dans ma tournée.
Ce labeur, elle le pratique depuis 30 ans, dans le quartier de l'Ariana à Tunis.
Bonjour Basma, tu as des bouteilles plastiques pour moi ?
Son travail est essentiel car sa mère et son frère, malades, dépendent d'elle financièrement.
Quand j'avais la vingtaine, nous n'avions pas suffisamment de moyens dans ma famille. Je ne trouvais pas de travail, donc un jour je suis sortie avec le chariot qui nous sert pour la bonbonne de gaz et j'ai commencé à demander à des gens du quartier s'ils avaient du pain ou des bouteilles vides car je savais que je pouvais les vendre.
Basma compresse ses bouteilles pour réduire leur taille. Elle fait tout à main nue, sans gants de protection. Une fois sa tournée finie, elle va peser et vendre son sac de plastique dans un dépôt.
Allez Karim, dépêche-toi. Pèse mon lot d'abord, car je dois y aller et n'oublie pas de me redonner le sac. Voilà, ça fait 6 kilos. Le kilo est à 1 dinar, donc j'ai gagné 6 dinars aujourd'hui.
Soit 2 euros, qui lui permettront de nourrir sa famille pour la journée seulement. C'est cette précarité qu'a voulu mettre en lumière Maha Bergaoui, auteure de l'étude sur les femmes berbéchas pour l'Union nationale de la femme tunisienne.
Notre étude a montré que Une femme sur cinq ne bénéficie pas de carnet de soins, donc n'a pas accès aux soins gratuitement. Malheureusement, les femmes qui devraient être à la retraite sont encore en train de travailler.
L'étude est l'une des premières en Tunisie à révéler les conditions de ces femmes.
Cette étude, qui est le début d'une recherche-action, a pour l'objectif de mettre en exergue la vulnérabilité de ces femmes, de définir leurs besoins dans un but ultime, qui est le plaidoyer auprès des décideurs.
Mais la grande majorité travaille sans aucune couverture sociale. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
RFI, les principaux titres de l'actualité internationale de ce samedi 4 janvier 2025. Des milliers de personnes attendues dans les heures qui viennent à Séoul. Après une journée déjà chaotique, les manifestants exigeront une fois encore l'arrestation de Yoon Suk-yeol après l'échec hier d'une première tentative. Les enquêteurs, munis d'un mandat, se sont présentés hier matin au domicile de l'ex-dirigeant, mais son service de sécurité et des soldats ont empêché cette arrestation. Assad al-Shibani, le nouveau chef de la diplomatie syrienne, va multiplier les visites régionales dans les jours qui viennent. Il doit se rendre au Qatar, aux Émirats arabes unis et en Jordanie. Hier, ce sont les ministres français et allemands des Affaires étrangères qui étaient à Damas pour rencontrer Ahmad al-Shara. Mike Johnson conserve finalement le perchoir de la Chambre des représentants. La Chambre basse du Parlement des États-Unis a réélu hier ce proche de Donald Trump comme speaker. Il aura fallu 2 tours de scrutin. 3 élus républicains avaient d'abord apporté leur voix à un autre candidat, mais ils ont changé leur vote lors du tour suivant. Et puis, Edmundo González Urrutia, l'opposant vénézuélien qui revendique sa victoire à la dernière présidentielle, doit rencontrer aujourd'hui les dirigeants de l'Argentine et de l'Uruguay. Il est d'ailleurs arrivé dès hier à Buenos Aires, alors que les autorités de Caracas promettent une récompense de 100 000 $ pour toute information qui permettra sa capture. À la une de Jeune Afrique cette semaine, la lutte d'influence à laquelle se livrent les voisins, le Maroc et l'Algérie au Sahel. Catherine Potet reçoit François Soudan, directeur de la rédaction de Jeune Afrique.
Bonjour François Soudan.
Bonjour Catherine.
On peut parler d'une sorte de guerre froide entre les deux frères ennemis du Maghreb, guerre froide dont l'enjeu, nous dit Jeune Afrique, est de s'attirer les sympathies des pays de l'Alliance des États du Sahel. Alors où en est-on aujourd'hui? Selon vous, François Soudan, l'Algérie est à la peine.
Oui, parce qu'après avoir exercé pendant 40 ans un rôle géopolitique majeur dans la région, l'Algérie accuse un net déficit d'image, d'influence depuis que des juntes militaires ont pris le pouvoir au Mali, au Niger, au Burkina. La diplomatie algérienne était beaucoup plus à l'aise avec les régimes civils de ces trois pays qu'avec ses officiers qu'elle ne connaissait pas et dont elle a d'ailleurs condamné les coups d'État, en particulier au Niger. Dans cette région qu'elle considère comme relevant de sa profondeur stratégique, l'approche de l'Algérie a toujours été à la fois sécuritaire, axée sur la protection des quelques 2300 km de frontières partagées avec le Mali et le Niger, approche auto-centrée et hostile à toute ingérence extérieure, qu'elle soit française hier ou russe aujourd'hui. C'est une question de doctrine, hein, quels que soient par ailleurs les bons rapports entre Moscou et Alger. Alors c'est avec le Mali, qui fut autrefois une plateforme de l'influence algérienne, que les relations sont les plus compliquées, elles sont même très conflictuelles. Le palais d'El Mouradia ne s'est toujours pas remis de la dénonciation par Bamako il y a un an des accords d'Alger qui lui a fait perdre son statut de médiateur régional. Et il y a une différence d'approche fondamentale, Catherine, entre les deux capitales concernant les groupes armés Touareg. Pour le gouvernement malien, ce sont des terroristes. Pour celui d'Alger, qui héberge d'ailleurs quelques-uns de leurs chefs, ainsi que l'imam Diko, grand opposant à la junte au pouvoir, ce sont des interlocuteurs essentiels à tout processus de paix, Catherine.
L'Algérie a la peine, donc. En revanche, le Maroc a marqué des points sur le plan diplomatique, mais aussi sur le plan économique, avec son projet de gazoduc atlantique.
Oui, le Maroc est dans une dynamique sahélienne qui est l'inverse de celle de l'Algérie, pour plusieurs raisons. D'abord, le Royaume n'a jamais condamné les coups d'État militaires. Il a toujours fait preuve d'une certaine compréhension vis-à-vis de la posture souverainiste des juntes, qui rejoint quelque part le « Morocco first », prôné par le roi Mohamed VI. Ensuite, c'est de longue date un investisseur économique, bancaire, si je puis dire spirituel, avec la formation des imams dans la région, mais aussi militaire. Les chefs des juntes militaires burkinabé, Abdourahmane Tiani, Ibrahim Traoré, ont effectué une partie de leur formation dans les académies du Royaume. Il y avait donc une sorte de terreau fertile qui a permis au Maroc de profiter du vide laissé par l'effacement de l'Algérie en se positionnant, Catherine, sur 3 offres, 3 créneaux complémentaires. D'abord, proposer aux pays enclavés de l'AES, via l'initiative atlantique, un débouché de substitution par rapport à celui qu'offraient les ports de la CEDEAO. Servir d'intermédiaire entre l'AES et les investisseurs financiers des pays du Golfe. Et enfin, jouer les médiateurs entre ces mêmes pays de l'AES et les pays européens, en particulier la France, comme le démontre le rôle crucial joué par le roi lui-même dans la libération le 19 décembre de 4 agents des services français détenus à Ouagadougou, Catherine.
Dernière question, François Soudan. Dans un peu plus de 2 semaines, c'est l'administration Trump qui sera aux affaires à Washington. Et là encore, le Maroc et l'Algérie ne sont pas sur un pied d'égalité. Ils ont des raisons différentes de s'en inquiéter ou de s'en réjouir.
Oui, tout à fait. En quelques mots, Catherine, disons qu'on a quelques raisons de s'en réjouir côté marocain, puisque c'est sous la précédente administration Trump que les États-Unis ont reconnu la marocanité du Sahara, et quelques raisons de s'en inquiéter à Alger, surtout si Marco Rubio est confirmé au poste de secrétaire d'État. Le sénateur de Floride s'est dans un passé récent distingué par des positions très critiques à l'encontre du régime algérien. Il avait notamment, Catherine, demandé qu'il soit sanctionné pour ses achats massifs d'armes russes.
Merci François Soudan. Cet article sur le Maroc et l'Algérie est à retrouver sur jeuneafrique.com.
Et cet entretien entre François Soudan et Catherine Potet à retrouver sur l'application RFI Pure Radio. L'invité de la matinée Afrique sur RFI, elle est danseuse, chorégraphe et directrice artistique. C'est la première femme même à diriger un spectacle off-Broadway. Angèle Kaba, ambassadrice incontournable des danses afro-urbaines avec son spectacle intitulé Breaking NYC qui nous plonge dans l'univers du hip-hop. De son héritage multiculturel à son rêve de créer un centre artistique en Afrique, rencontre avec une artiste qui n'a pas peur de briser les frontières. Angèle Kaba est l'invité de Christina Okello.
Angèle Kaba, bonjour.
Bonjour.
Off-Broadway et Broadway, quelle est la différence ?
Broadway, c'est une quarantaine de théâtres officiels avec plus de 400 ou 500 places, avec des budgets en général qui vont entre 1 million de dollars et plus. Et puis, il y a ce qu'on appelle off-Broadway. C'est la catégorie juste en dessous avec des théâtres un peu plus petits, avec moins de budget. Donc, en l'occurrence, le théâtre où Breaking NYC a été produit, c'est 149 places.
Comment êtes-vous arrivé à diriger ce spectacle et quelle est son histoire ?
En fait, j'avais pas du tout d'histoire. J'avais un mois devant moi parce que le théâtre dans lequel on a produit Breaking NYC était vide, était disponible en fait. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que pendant les auditions, j'ai fait 2 jours d'audition où j'ai eu une 60aine d'artistes qui sont venus d'un peu partout. Au fur et à mesure des auditions, je commençais à créer des petites histoires dans ma tête en fonction des danseurs que j'allais sélectionner. Donc après, on s'est focalisé sur l'évolution des danses. C'est-à-dire, on part du hip-hop qui est le breaking, le breakdancing, et ensuite, on va sur d'autres danses, on va dire urbaines, qui découlent du hip-hop, mais qui sont pas forcément hip-hop, ou alors qui sont attachées au mouvement, comme le popping, le locking, on a vu le crump, on a vu le light feet, qui est un style de danse qui est né à New York au début des années 2000. Et en fait, chaque style de danse a été attaché à une petite histoire personnelle de chaque danseur, mais elles ont aussi été présentées dans l'ordre chronologique dans lequel elles ont été créées.
Quel accueil a reçu ces spectacles ?
Franchement, c'était au-dessus de mes attentes. Je stressais énormément parce que en tant qu'immigrée, on se sent toujours un peu petit, on se dit « ouais, je suis pas à ma place, peut-être que je suis pas assez fort, peut-être qu'ils sont mieux que moi ». Enfin, il y a plein de doutes qui se mettent dans nos têtes, en plus avec le nouveau gouvernement qui se met en place ici. Oui. Les gens étaient un peu impressionnés parce qu'ils s'attendaient pas qu'une Africaine antillaise immigrée pouvait créer un spectacle comme ça aussi authentique. En fait, j'ai vraiment respecté la culture hip-hop au mieux que j'ai pu, en fait, parce que c'est une culture qui m'inspire.
Dans un milieu théâtral souvent rigide, comment avez-vous réussi à préserver votre identité ?
En travaillant très très dur, je suis arrivée tout doucement mais sûrement. Et quand ce projet est venu, j'ai pas eu à trop en fait compromettre mon art pour créer en fait. Et ça c'était bien. Bien sûr, le hip-hop, les danses hip-hop, la culture hip-hop, le mouvement hip-hop, c'est quelque chose dans lequel j'ai grandi, j'ai évolué depuis l'âge de 16 ans. Mais mon identité africaine, antillaise, est diverse en fait, est toujours là. Donc je pense que je vois les choses différemment. Je vois l'évolution des danses ou l'histoire américaine ou des noirs américains différemment parce que je suis pas née dedans. Donc j'ai un regard intérieur peut-être qui permet, j'ai envie de dire, de mettre les choses en avant ou de les embellir différemment, ça c'est sûr.
Née en Belgique, d'une mère martiniquaise et d'un père congolais, comment vos racines influencent-elles votre travail ?
Je suis une petite meuf de quartier, congolaise, martiniquaise, c'est un des métissages les plus banals qui existent chez nous. Jamais j'aurais pu imaginer que j'aurais pu être capable de créer un spectacle qui touche le cœur des gens comme ça. C'est vrai que toute cette, j'ai envie de dire, cette diversité, cette multiculturalité, elle est présente dans mon travail. Je pense pas que j'aurais pu réaliser un projet comme ça sans, j'ai envie de dire, m'inspirer de qui je suis.
Vous avez créé une technique de danse appelée Kafrikan. Est-ce une façon de rendre hommage à vos origines ?
En fait, au début, j'avais du mal à trouver ma place. Je me souviens que quand je donnais cours de hip-hop ici, j'étais comparée ou en compétition, on va dire, avec tous les gens qui sont nés ici, qui ont travaillé avec des gros artistes, je sais pas, Beyoncé, Jay-Z, Rihanna, Kanye West, tout ça. Donc, je me suis dit, oulala, je m'attaque à quelque chose de solide. Et j'ai dû, en fait, pour me différencier de la concurrence, venir avec mes origines. Et c'est comme ça que j'ai créé ce qu'on appelle la technique Kafrikan. Mon nom, Shaba et africaine pour la danse africaine. Et puis en fait, au fur et à mesure des années, pourquoi les gens pensent que je suis l'ambassadrice des danses afro-urbaines ici ? Tout doucement, j'ai commencé à apporter l'idée que les danses afro-urbaines, elles existent à part entière et qu'on n'a pas besoin en fait de les mélanger ou de les fusionner avec d'autres styles. Et tout doucement, j'ai commencé à créer un mouvement qui s'appelle Afro-Dance New York, où en fait, les danses afro-urbaines et sociales, elles sont représentées pour ce qu'elles sont. Le dombolo, le coupé décalé, l'afro-house, différents styles de danse que j'enseigne pour ce qu'elles sont. Je n'ai plus besoin aujourd'hui de le fusionner avec le hip-hop parce que maintenant, les gens aujourd'hui sont assez éduqués, ouverts et réceptifs à ces danses-là.
Quels sont vos rêves aujourd'hui ?
J'aimerais bien ouvrir un centre culturel ou un centre des arts quelque part en Afrique, pas forcément le Congo. Je rêve le Kenya, je ne sais pas pourquoi, parce que je n'y ai jamais été. J'aimerais bien avoir la plus grosse institut artistique et que les gens de l'extérieur du monde entier viennent enseigner ou apprendre en fait de nous.
Angèle Kaba, merci.
Angèle Kaba, notre invitée sur RFI ce samedi, elle était interrogée par Christina Okello. Et puis direction Lyon pour refermer cette demi-heure et avant le retour de l'actualité internationale. Jusqu'à demain dimanche s'y tient la 17e Biennale d'art contemporain où Lina Lapelytė, artiste et musicienne lituanienne, y présente The Speech, le discours en français. Et pourtant la performance est sans mots mais plutôt avec des cris d'animaux imités par des enfants. Selon elle, cela traduit ainsi les souvenirs et les fantasmes qu'ils évoquent chez eux. Une scénographie inattendue sur les pulsations primaires, la relation à l'autre et la perte de contrôle dans un monde où la parole n'est plus vraiment entendue. José Marinho a assisté à l'une des représentations.
Dans The Speech de l'artiste lituanienne Lina Lapelytė, des gosses singent des cris de bêtes en courant dans tous les sens. Cette vidéo, filmée à la Bourse du Commerce de Paris et présentée à l'intérieur d'un conteneur à la Biennale d'Art Contemporain de Lyon, donne la voix à ceux qui n'ont pas, enfants comme animaux.
First of all, I thought of this like a noise piece.
L'idée, c'était d'avoir une œuvre produite par des enfants. Je voulais leur permettre d'imaginer un animal et de faire quelque chose qui soit différent de ce qu'on trouve dans les livres, par exemple le cocorico, de sortir de ce qui est attendu. Et je me suis rendu compte qu'en s'éloignant de l'interprétation humaine qu'on connaît, on pouvait obtenir quelque chose de très abstrait et à la fois très beau. Pour moi, les enfants sont plus proches de la nature que ne l'est l'adulte. Puis il y avait également cette idée de la voix qu'on donne aux enfants, la question de leur futur, de leur avenir. Je trouve que aujourd'hui, finalement, le langage nous manque, on n'a pas toujours les mots.
Performance, musique et installation se confondent constamment dans son travail. Née en 1984 en Lituanie, passée par le Royal College de Londres, où elle étudie les arts du son et du spectacle, Lina Lapelytė remporte le Lion d'or de la Biennale de Venise en 2019 avec Sun and Sea. Dans cet opéra, un groupe de baigneurs en bikini chante sur une plage artificielle le désastre climatique. Reconsidérer notre place dans le monde, c'est son but et The Speech l'illustre parfaitement. Bien qu'elle s'intitule Le discours en français, sa nouvelle création suggère l'échec de la parole.
Quand on regarde les deux dernières années de situation politique avec les guerres, la guerre en Ukraine, la guerre en Palestine, on voit finalement que le langage ne joue pas son rôle et qu'il nous manque des mots. On n'a pas réussi à trouver un accord et donc je me dis que peut-être on devrait arriver à proposer un autre langage.
The Speech est le résultat d'un travail amorcé par l'artiste depuis 2010 sur la transformation de récits personnels en voix collective. Il révèle aussi une scène artistique lituanienne où l'art non institutionnel ne demande qu'à être encouragé.
Pour moi, ce n'est pas vraiment l'art qui peut changer les choses, mais plutôt les actes et la politique.
Dans une époque obsédée par le contrôle, The Speech de Lina Lapelytė est un plaidoyer pour le lâcher prise et un adieu au langage humain trop individualiste.
Et c'est avec José Marinho du service culture de RFI que se referme cette demi-heure. Merci à Laurent Hérault à la réalisation, à Édouard Dupénoit à la rédaction en chef. Dans une minute sur RFI, le retour de l'actualité internationale avec le journal de Pierre Boudias.
L'épopée des musiques noires.
Le rock'n'roll est-il l'émanation de la culture africaine-américaine ? Plus qu'un genre musical, c'est une attitude, un esprit, des convictions qui animaient des musiciens devenus des icônes. Dans son dictionnaire chronologique du rock, Bruno Blum bouscule les idées reçues et scrute avec acuité les évolutions stylistiques d'une forme d'expression dite révolutionnaire.
L'épopée des musiques noires, Joe Farmer.
Tout à l'heure, à partir de 13h30 TU.
RFI. Géopolitique.
Jamais la richesse et le pouvoir du crime organisé n'ont été aussi importants. Les criminels se jouent des frontières, dirigent des empires et ont infiltré les systèmes économiques et politiques au point d'en contrôler des pans entiers. Certaines mafias sont aujourd'hui plus puissantes que des États. Gros plan sur la gangstérisation du monde en partenariat avec la revue Questions internationales.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Tout à l'heure, à partir de 18h40 TU.
RFI.